4 listes à déposer pour l'élection des membres du gouvernement. Les groupes indépendantistes n'ont finalement pas fait de liste commune. Des collectivités calédoniennes visées par une cyberattaque menée par un groupe de militants pro-russes. Peu d'impact a priori, comme nous le verrons dans ce journal. Après les fêtes de fin d'année, les enfants profitent des vacances. Les centres de loisirs ont ouvert leurs portes. Aux USA, 10 morts et 35 blessés, c'est le bilan de l'attentat à la voiture Bélier à la Nouvelle-Orléans. Il s'agit bien d'un attentat islamiste, selon les premiers éléments de l'enquête. En métropole, 1000 voitures brûlées, 420 personnes interpellées. Le ministère de l'Intérieur a rendu public les chiffres de la délinquance pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Et puis le sport avec le tennis et les quarts de finale de l'Open de Nouméa. Début de ce soir, on en parle à la fin de ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. On connaîtra donc mardi prochain la composition du 18e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les membres seront élus lors d'une séance solennelle du Congrès à partir des listes déposées par les groupes politiques sur le bureau du Congrès. Ils avaient jusqu'à hier soir 23h59 pour le faire, Lionel Sabot.
Oui, et rappelons pour commencer que seuls les groupes politiques constitués au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pouvaient déposer une liste. Quand on parle de groupes constitués, cela signifie qu'ils comptent au moins 6 élus. Selon nos informations, ce sont 4 listes qui ont été déposées sur le bureau du Congrès. Une liste commune déposée par l'intergroupe Les Loyalistes et le groupe Rassemblement. Une liste déposée par le groupe Calédonie Ensemble, sur laquelle figure, selon nos informations, un membre de l'Éveil océanien. D'après nos informations toujours, les groupes indépendantistes du Congrès auraient chacun déposé une liste déposée par le groupe UCF, LNKS et Nationaliste et une liste déposée par le groupe UNI. Précisons, Jean-François, que pour l'élection des membres du gouvernement, les groupes peuvent inscrire sur les listes déposées les noms de personnes qui ne sont pas forcément des élus. Le dépôt des listes sur le bureau du Congrès était la deuxième phase du processus de l'élection des membres du futur nouveau gouvernement, processus qui avait débuté lundi dernier lorsque les élus du Congrès avaient adopté une délibération fixant à 11 le nombre de membres du 18e gouvernement. La dernière étape aura lieu mardi prochain. Lors d'une séance solennelle, les élus du Congrès désigneront les membres du prochain gouvernement.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre question opinion sur Radio Rythme Bleu, question SMS. Voici la question du jour. Pensez-vous que le couvre-feu a contribué au fait que le réveillon du Nouvel An se soit passé sans débordement? Si vous pensez qu'il y a contribué, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Un coup dur pour le monde agricole. L'agence rurale a annoncé la semaine dernière qu'elle ne verserait plus les aides au monde agricole. Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, était notre invité à 7h30 pour en parler, Nicolas Legrand.
Oui, l'agence rurale n'a pas perçu l'intégralité du produit des taxes qui devaient lui être affectées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour fonctionner. Le manque à gagner est de 2,6 milliards pour l'année 2024. L'agence rurale a donc fonctionné sur sa trésorerie et son fonds de roulement a fondu comme neige au soleil. Et la cessation de paiement est même annoncée pour mars prochain. Cet établissement public indemnise, vous le savez, les agriculteurs impactés par les calamités et finance aussi le complément de prix aux agriculteurs. Par exemple, pour un éleveur de bœuf, l'OSEF rémunère le prix du kilo de bœuf à 506 francs, un prix abondé de 220 francs par l'agence rurale pour la catégorie extra. 220 francs qui ne seront plus versés aux agriculteurs, nous a dit Jean-Christophe Niotou.
Il ne s'agit pas d'enrichissement des professionnels. Il s'agit de textes de prix qui ont été votés à une époque par le Congrès et qui permettaient d'une part de mieux rémunérer les professionnels sans impacter le prix à l'étal au consommateur. Parce que ça va changer là à l'instant T, puisque les abattages qui vont avoir lieu à partir d'aujourd'hui, par exemple, revenons sur le bœuf, c'est 28,5% du prix payé à l'éleveur qui tombe. L'éleveur, le toucher 766 francs, sera payé 546 francs. Mais par contre, ça ne changera pas le prix au consommateur. C'est ça que je dois préciser aujourd'hui. Il s'agit juste d'une baisse du revenu du professionnel. Et c'est très dangereux. Ces compléments ont été mis en place pour équilibrer le coût de production à une époque. Après, aujourd'hui, ce qui pourrait avoir lieu, c'est dit, voilà, les taxes ne peuvent plus être versées. Elles doivent servir à autre chose. OK, certes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on augmente le prix réel? Et derrière, quelle est la conséquence à l'étal?
La Chambre d'agriculture et de la pêche qui a sollicité un entretien avec les élus du Congrès et attend également la formation du 18e gouvernement afin de porter son message.
C'est qu'il faut voir sur le temps long. Notre secteur d'activité est un secteur qui a la capacité à mieux nourrir les Calédoniens, mais c'est aussi un secteur économique qui a la capacité à créer de l'emploi, à créer de la richesse, à maintenir des populations. Et nous, nous estimons qu'à l'horizon de 2030, on peut créer 2000 emplois, que ce soit des petits exploitants qui s'installent, jusqu'à des grosses exploitations agricoles, des transformateurs, des distributeurs, etc. Et pour ça, il faut aller vers les quatre axes que nous voyons. C'est la transformation, la diversification, le stockage et potentiellement l'exportation. Je tiens à dire à mes collègues qui m'écoutent que la Chambre d'agriculture et la pêche, mais pas que, on va défendre absolument les intérêts de nos professions, parce que défendre l'intérêt de nos professions, c'est défendre l'alimentation des Calédoniens. Donc on continuera, et j'espère qu'au budget de l'agence rurale qui sera voté mi-février, j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles. D'ici là, on va bien discuter avec les élus du Congrès et le nouveau chargé de l'agriculture au gouvernement et le nouveau président du gouvernement, donc on connaîtra d'ici une semaine.
La Chambre d'agriculture et de la pêche qui compte aussi sur les cantines scolaires pour intégrer plus de produits locaux afin de soutenir la filière tout en améliorant la santé des populations. Une interview de Jean-Christophe Niotou à retrouver en intégralité sur notre site internet rrb.nc.
Des collectivités calédoniennes touchées par une cyberattaque. Quelles conséquences prévisibles ? On voit ça dans un instant après une première pause dans ce journal.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Avec la Calédonienne des Eaux, payez vos factures en toute simplicité. Des bornes de paiement sont là pour vous, proches de chez vous. Profitez d'un service pratique et rapide. Calédonienne des Eaux, l'eau qui nous unit.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS 170 059.
RRB 11h 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Je vous le disais il y a un instant, des collectivités calédoniennes visées et touchées par une cyberattaque. Les sites internet de plusieurs villes et départements français ont été ciblés par un groupe de militants pro-russes. Et la Calédonie, Léo Fichou, n'est pas épargné.
Et oui, le groupe de hackers No Name a effectivement lancé une attaque dite par déni de service, c'est-à-dire qui consiste à inonder un site précis de connexion jusqu'à ce qu'il plante. Les explications de Laurent Rivaton, président de la commission cybersécurité du cluster OpenNC.
Le but, c'est de paralyser des serveurs, hein, pour faire simple, donc de les empêcher de rendre le service pour lequel ils sont prévus. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un groupe qui s'appelle No Name, qui est un groupe qui est affilié à la Russie, qui a lancé une campagne pour paralyser un certain nombre de serveurs de collectivités françaises. C'est une manière pour eux de montrer la protestation de la Russie par rapport au fait que la France soutient l'Ukraine.
Une attaque par déni de service peut avoir une portée plus ou moins importante, de simples ralentissements jusqu'à une paralysie totale des serveurs d'un site internet. On retrouve Laurent Rivaton.
Il n'est pas impossible que sur certains sites de Nouvelle-Calédonie, il y ait simplement eu des ralentissements. Puisqu'en fait, quand des attaques de ce type-là sont détectées, eh ben, il y a tout un tas de dispositifs qui peuvent être mis en place et certains se mettent en place de manière automatique pour délester les serveurs et donc empêcher qu'il y ait des impacts forts. Ce qu'on observe, les très très grosses attaques, c'est souvent ça se fait par vagues. Plutôt que de faire une attaque très massive pendant une longue durée, de le faire par plusieurs vagues, ça a tendance à épuiser plus facilement les serveurs. Comme un tremblement de terre, en fait. Il y a une première secousse et puis après, il y a des pics derrière qui peuvent être de plus en plus importantes jusqu'à paralyser totalement les serveurs qui sont impactés.
Et à l'heure actuelle, il est difficile de faire un bilan de l'attaque. Nombre de cibles, de requêtes, temps de ralentissement et de paralysie des sites internet. Laurent Rivaton explique qu'il faut déjà identifier toutes les victimes.
C'est les victimes qui doivent dire l'impact, hein, si ça a été grave pour elles ou pas. La difficulté, peut-être, c'est que plein de sites ont été touchés en même temps. Les attaques par déni de service, en général, elles s'expriment par le nombre de requêtes par seconde qui sont émises par l'attaquant. Et ça peut être des nombres très, très, très importants, hein, plusieurs centaines de millions de requêtes à la seconde. Donc ça peut être extrêmement massif. C'est ça qui va permettre de qualifier la puissance d'une attaque.
En Nouvelle-Calédonie, ce sont les sites internet des procédures administratives en ligne des services publics qui ont été la cible de cette cyberattaque.
En ce début d'année 2025, ce sont évidemment toujours les vacances scolaires. Et pour les parents qui travaillent, les centres de loisirs sont une véritable aubaine pour accueillir leurs enfants. Les centres de l'association des villages de Magenta sont ouverts pendant toute la durée des vacances. Et aujourd'hui, Charlotte Coulson, c'est à l'école Albert Perrault que les jeunes se retrouvaient.
Et ils sont bien contents de s'y réunir. C'est pour eux l'occasion de revoir leurs amis. Et comme à chaque vacances, aussi de se défouler, multiplier les activités. Amy et Vincent ont tous les deux 8 ans. Et un autre point commun, c'est qu'ils adorent passer les vacances en centre de loisirs.
Cet après-midi, on va aller à la piscine. Ce matin, on met de la musique. Et les activités, c'est trop bien. Mais parce qu'il y a tous mes amis et en même temps, les animateurs, ils sont gentils avec moi et surtout la directrice.
On fait du ballon prisonnier, on fait le rituel. Et mardi, on a fait une grosse boum. Et aujourd'hui, on va aller à la piscine.
Et alors, comment tu trouves les activités aussi ?
Trop bien.
Bah parce que là on fait beaucoup de jeux, vu que quand on est avec papa et maman, on est obligé de rester à la maison vu qu'eux ils travaillent.
Et il y a en tout 22 enfants comme Amy et Vincent, occupés toute la semaine, des petits comme des grands, de maternelle et de primaire, qui ont avec eux 4 jeunes pour les encadrer. Flavia est directrice stagiaire au village de Magenta et avec son équipe, il prépare de belles activités pour les enfants.
Ils sont très heureux de revenir tout le temps au centre. Le soir, ils partent avec la joie de revenir le lendemain. Là, on est sur par rapport aux fêtes. On fait le thème par rapport aux fêtes. Et là, en janvier, on va repartir sur la culture calédonienne. Ben, on va essayer de leur faire découvrir chaque culture des communes de la Nouvelle-Calédonie, des îles Loyautés. On leur demande nous aussi beaucoup ce qu'ils veulent faire eux. Comme ça, ils sont quand même acteurs de leurs vacances. C'est très bien. C'est un très beau travail d'être avec les enfants et de leur permettre de passer de bonnes vacances.
Et les inscriptions sont toujours ouvertes pour le centre de loisirs. Pour cela, il faut contacter l'association des villages de Magenta au 25 40 54, le 25 40 54.
11h42, une nouvelle pause et dans un instant, ce sera l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA Agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS 170 059.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité dans le monde et en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Bodin.
Oui, avec l'actualité à l'étranger et aux USA, la piste de l'attentat terroriste est désormais privilégiée. Après le drame survenu à la Nouvelle-Orléans, un homme a foncé en voiture dans une rue très fréquentée de la ville, puis il a ouvert le feu. Bilan 10 morts et 35 blessés. L'auteur des faits, qui s'appelle Shamsuddin Jabara, a été tué par la police américaine. C'est un citoyen américain de 42 ans, originaire du Texas. Les enquêteurs sont convaincus qu'il n'a pas agi seul et qu'il s'agit bien d'un attentat islamiste. Geoffrey Branger pour Europe 1.
Selon les dernières informations, un drapeau djihadiste de l'État islamique était accroché sur le pick-up blanc qui a servi à l'attaque. L'assaillant, Shamsuddin Jabbar, un citoyen américain de 42 ans, né et résident au Texas, ancien militaire et connu des autorités pour des affaires de vol et de conduite sans permis. Pour l'instant, cet attentat n'a pas été revendiqué. Les investigations se poursuivent à l'État Duncan, agent spécial du FBI.
Et le FBI travaille à déterminer les associations et affiliations potentielles du sujet avec des organisations terroristes. Nous ne pensons pas que Jabbar était le seul responsable. Nous suivons toutes les pistes avec acharnement, y compris ceux de ses associés connus.
Et nous venons de l'apprendre, certains médias américains, des images de vidéosurveillance de la Nouvelle-Orléans montrent 3 hommes et une femme plaçant des explosifs sur le lieu de l'attaque, des dispositifs qui n'ont pas été activés.
Des armes et des engins explosifs ont été trouvés dans le véhicule du suspect. D'autres engins explosifs improvisés potentiels ont également été trouvés dans le quartier français. À ce jour, 2 engins explosifs improvisés ont été trouvés et neutralisés. Nous travaillons pour nous assurer qu'il n'y a plus de menaces.
Étant donné ces dernières informations, l'hypothèse d'une attaque isolée s'éloigne de plus en plus. Il pourrait plutôt s'agir d'une cellule terroriste organisée.
Et puis dans l'actualité à l'étranger, toujours noté que le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a confirmé que la France avait mené des frappes aériennes en Syrie ces derniers jours. Contrairement aux allégations de Jean-Luc Mélenchon qui a dénoncé une opération décidée par le président de la République contre les nouveaux dirigeants syriens, ces frappes ont été menées dans le nord du pays sur des positions occupées par Daesh. Elles ont été effectuées aussi dans le cadre de l'opération Chamal décidée en 2014 par la coalition internationale. En métropole, la nuit de la Saint-Sylvestre n'a pas été partout de tout repos. Le ministère de l'Intérieur a publié les chiffres des actes de délinquance et ils sont en hausse par rapport à 2023. Théo Grévin pour Europe 1.
Au total, près de 984 véhicules incendiés cette nuit dans toute la France C'est 200 de plus que l'an passé. Par ailleurs, 420 personnes ont été interpellées. Là encore, le chiffre est en hausse par rapport à l'année dernière. Dans un communiqué publié en fin d'après-midi, le ministre de l'Intérieur dénonce un bilan trop lourd. Bruno Retailleau parle de violences qui sont le produit d'un ensauvagement incarné par des lâches, des voyous qui s'en prennent aux biens des Français souvent modestes. Au total, 310 gardes à vue ont eu lieu, notamment après des tirs de mortiers d'artifice visant les forces de l'ordre. Autre incident tragique, un enfant de 2 ans a été blessé à l'œil par un tir de mortier à Lyon, place Bellecour, aux alentours de minuit. Face à cette violence gratuite et endémique, la réponse sécuritaire est essentielle, mais ne sera pas suffisante, prévient déjà Bruno Retailleau, qui réclame une réponse judiciaire à la hauteur.
Et puis d'autres chiffres qui concernent cette fois-ci le marché de l'automobile. En 2024, il est resté très compliqué. Le nombre d'immatriculations de véhicules neufs a reculé de 3,2% par rapport à 2023. Et c'est même un recul de 22% par rapport à l'année 2019, dernière année de référence en la matière avant la crise Covid. 11h47, dans un instant, c'est de sport avec notamment du tennis. Et ce soir, ce sera les quarts de finale de l'Open BNC de Nouvelle-Calédonie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
On va commencer par le tennis et la suite du BNC Tennis Open sur les cours du Wentoro. Léo Fichou place au quart de finale dès cet après-midi.
Et oui, les quarts de finale en simple et les demi-finales en double. La journée commencera à 16h30 avec la seule demi-finale de double. Le français Théo Arribagé et le portugais Francisco Cabral, tête de série numéro 1 du tournoi, seront opposés à Blake Beldon et au double tenant du titre Colin Sinclair. L'autre demi-finale n'aura pas lieu. Enzo Cuoco et Jesper De Jong ont déclaré forfait. Le néerlandais s'est blessé au dos. C'est donc la paire japonaise Ryuki Matsuda et Ryotaro Taguchi qui joueront la finale samedi. Dans le tableau de simple, maintenant, les premiers quarts de finale débuteront à 18h. D'un côté, l'Australien Moerani Buzic contre le favori tête de série numéro 2, le Hongrois Marton Fucsovics, et de l'autre, Constant Lestienne, numéro 8 du tournoi, qui affrontera le Monégasque Valentin Vacherot, numéro 4. On écoute le Français. Il s'est exprimé à notre micro hier soir après sa victoire sur Auguste Holmgren en 3-7.
Super content ouais, de gagner. En fait, je sais qu'il n'y a pas énormément de points ATP à gagner, mais c'est des matchs en début d'année, gagnés au couteau. Donc pour la suite, ça compte. Ça donne confiance. Et puis physiquement aussi, j'étais plutôt bien. Donc ça m'a rassuré pour l'Open Australie, tous les tournois qui arrivent. Physiquement, ça allait. C'était juste le vent. C'était vraiment dur de jouer. C'était dur de trouver du plaisir parce que je n'arrivais pas du tout à faire ce que je voulais. Donc. Le vent, j'ai beaucoup de mal. Ouais. C'est vrai que le soutien du public, ça a vraiment joué en ma faveur. C'est sûr que ça aide en fin de match quand c'est serré comme ça. Donc ça, vraiment, je les remercie beaucoup. Ouais.
Et lors de la dernière rotation, un second Français tentera de décrocher son billet pour les demi-finales. Enzo Cuoco, finaliste malheureux l'an passé, sera opposé à Jurij Rodionov, tête de série numéro 4. Le vainqueur affrontera un Japonais au prochain tour, soit Shintaro Mochizuki, soit Taisei Ishikawa.
Et puis le sport en ce début d'année, c'est aussi de la voile. Ça se resserre de nouveau en tête du Vendée Globe.
Au dernier pointage, Johan Richomme sur Paprec Arkéa se rapproche de nouveau du leader Charlie Dalin à bord de Massif Centré Prévoyance. 36 000 nautiques séparent les deux hommes qui sont actuellement au large des côtes brésiliennes. Ils continuent donc leur remontée vers la ligne d'arrivée, les Sables d'Olonne. Derrière, à la troisième place, on retrouve toujours Sébastien Simon sur groupe Dubreuil. Il refait petit à petit son retard. Il est tout de même un peu plus de 400 000 nautiques de la tête.